Merci Tiffaine, bon week-end. Aujourd'hui, pour et avec Mahmoud Darwish, tel qu'il fait composer, dire et écrire, avec le musicien Rodolphe Burger, le poète Tahar Bekri.
La compagnie des poètes, par Manu Farid.
Et c'est jusqu'à 16h.
هنا حاضر لا يلامسه الأمس حين وصلنا إلى آخر الشجرات انتبهنا إلى أننا لم نعد قادرين على الانتباه وحين التفتنا إلى الشاحنات رأينا الغياب رأينا الغياب يكدس أشياءه المنتقى وينصب خيمته الأبدية من حولنا.
C'est un présent que le passé ne rejoint pas. Arrivés à la limite des arbres, nous avons réalisé que nous n'étions plus capables d'attention. Et nous retournant vers les camions, nous avons vu l'absence. Nous avons vu l'absence empiler ses objets choisis et dresser sa tente éternelle autour de nous. Quelques vers de Mahmoud Darwish, dit par lui-même, extrait du poème « La nuit du hibou » pour ouvrir cette heure avec ou pour le poète palestinien disparu le 9 août 2008 et auquel la Philharmonie de Paris consacre un plein week-end musical. Ça démarre pas plus tard que ce soir. Et demain soir, ce sera votre tour, Rodolphe Burger, à vous, à votre guitare, mais aussi à Mehdi Adab et son oud, à Julien Perdeau, ses claviers, Rachida Brakni, au calligraphe Julien Breton, et puis à une moisson d'artistes sous la baguette de Ramzi Abouredouane, de rendre hommage à Darwish. Sans tout dévoiler, peut-être juste en deux mots, parce que je sais que c'est... Voilà, ça n'est pas tout à fait calé encore, mais qu'est-ce qu'on va entendre demain soir, Rodolphe Burger ? Dans ce concert titré « Ma valise et mon pays ».
Oui, donc là, c'est vraiment une soirée orchestrée, composée, si on peut dire, par Ramzi. Et donc, moi, je vais participer à cette soirée en proposant une version évidemment plus courte, mais aussi enrichie musicalement de cette chose « S'envole les colombes » que j'avais mis en musique il y a déjà 10 ans.
« S'envole les colombes » qui est un poète de Mahmoud Darwish.
Poème de Mahmoud Darwish, qu'on joue très très régulièrement, et qu'on a l'impression même qu'on va le jouer jusqu'à la fin de nos jours. Enfin, c'est le sentiment qu'on a, qu'on se dit ça à chaque fois qu'on le fait avec les amis musiciens qui le font. Là, ce sera une version avec des arrangements proposés par Ramzi avec l'orchestre palestinien qui sera là. Avec Rachida Brakni aussi, que j'ai convié, avec qui j'avais fait déjà une version à la Maison de la Poésie.
Rodolphe Burger, est-ce que vous voudriez bien nous lire alors, c'est un petit extrait dans la traduction d'Elias Sambar, un petit bout du poème que vous avez mis en musique.
J'ai vu Avril sur la mer. J'ai dit, tu as oublié le suspens de tes mains, oublié les cantiques sur mes plaies. Combien de fois peux-tu naître dans mon songe et me mettre à mort pour que je crie je t'aime et que tu trouves le repos? Je t'appelle avant les mots. Je m'envole avec ta hanche avant d'arriver chez toi. Combien de fois parviendras-tu à déposer les adresses de mon âme dans les becs de ces colombes, à disparaître, tel l'horizon sur les pentes, pour que je sache que tu es Babel, Égypte et Cham. S'envolent les colombes, se posent les colombes.
Merci beaucoup. Alors, hommage toujours au prolongement Tahar Bekri, poète tunisien, universitaire aussi, qui, quelques mois après la disparition de Mahmoud Darwish, écrivait « Épopée du thym de Palestine », un long poème en mémoire. Alors, on a commencé par entendre la voix, la cadence, la respiration si particulière de Darwish, on y reviendra. La revoici au micro de Kathleen Evin en 2003, c'était sur France Inter, alors qu'il venait juste d'entendre un poème de René Char, dit par René Char.
J'aime la poésie de Char, je connais sa poésie, mais je dois vous avouer, c'est la première fois que j'entends la voix de René Char. Et il a une belle voix, une voix dense. Et finalement, cette voix me le fait encore aimer davantage et m'incite encore plus à m'en tenir à mon goût pour les cadences et les rythmes. Je ne sais pas si la poésie est une arme au sens traditionnel du terme. En fait, c'est une contre-arme, la poésie. Ce n'est pas une arme, c'est une arme qui peut bloquer les véritables armes.
Car
aucun poète ne peut bloquer la guerre avec la langue de la guerre et les outils de la guerre. Comme vous m'avez offert ce poème de René Char, je profite de l'occasion pour citer un autre vers de Char, dans lequel il dit: si tu détruis, il faut que tu détruises avec des mains nuptiales. Et je crois que la poésie détruit, mais avec des mains nuptiales.
C'est
probablement la plus belle façon de dire le rejet de la violence et de l'injustice. Par la présentation d'une force opposée du despotisme, de l'occupation.
Mahmoud Darwish, traduit en simultané par son ami, compagnon de route, traducteur Elias Sambar, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui ouvrira bien ce soir le week-end à la Philharmonie. Darwish, lecteur de Char, lecteur de Rilke, beaucoup, lecteur évidemment des poètes préislamiques, des Grecs, enfin lecteur infatigable. Darwish qui entend la densité, dit-il, de la voix de René Char. Si ça lui fait l'aimer davantage encore, vous, Rodolphe Burger, c'est en le lisant que vous l'avez aimé davantage, puisque c'est par sa voix que vous avez commencé à l'aimer, hein, en l'entendant, alors, si je ne me trompe pas, sur France Culture, dans votre voiture, pour être tout à fait précise. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait cette voix pour que vous vous gariez sur le bord de la route pour l'écouter mieux ?
Une des choses qui me ravit quand on donne ce spectacle qui met en miroir donc le Cantique des Cantiques et ce poème de Darwish, c'est que entre les deux parties, on intercale un extrait du film de Godard qui s'appelle Notre musique, où on entend Darwish, c'est magnifique, c'est une scène d'interview, de supposée interview avec une journaliste israélienne. Et donc voilà, je connais par cœur maintenant cette
interview dans laquelle il dit des choses incroyables.
Il dit des choses absolument incroyables qui seraient aujourd'hui inaudibles. Enfin, avec un ton. Donc voilà, c'est son ton, ce ton, cette fermeté, cette douceur, cette manière séquencée de parler. Il parle par énoncés successifs, avec à chaque fois une petite pause. Donc c'est le Darwish. En entretien, au fond, qui m'a retenu d'abord avant sa poésie, c'est-à-dire sa parole politique bien sûr, mais sa parole, ce qu'il dit de la poésie, ce qu'il dit, sa manière de parler, une parole extraordinaire, je dirais, qui traite les sujets, y compris les sujets justement politiques, d'une manière supérieure, quoi, d'une manière qui n'est qu'à lui. Et ensuite, évidemment, en découvrant de plus près, et même de très près, en lisant, en décortiquant ce poème sur lequel on a travaillé, je me suis un peu plus rapproché de cette chose qui est quand même pour nous difficile à réellement apprécier dans toutes ses qualités, qui est sa poésie, quoi. Parce que là, ça se pose la question de la langue, hein, évidemment.
Tarbes écrit, oui.
La parole de Darwish, on ne peut l'écouter sans émotion, et c'est mon cas.
Ça s'est vu, oui, alors on est à la radio, ça ne se voit pas, mais ça s'est vu sur votre visage.
Et son point de vue sur la poésie par rapport à René Char me paraît essentiel, par rapport à la beauté du monde que chante Darwish d'une œuvre à l'autre. Je le comparerais plutôt à Seferis. C'est nommer la terre, c'est nommer la beauté des choses et des êtres. Darwish, comme Seferis, est capable de nous faire aimer un cyprès, un citronnier, un pain à l'huile d'olive, un brin de thym, un cheval, un puits, tout ce qui nous entoure, les éléments essentiels de la beauté du monde surgissent dans ces vers pour nous faire aimer la planète, pour nous faire aimer l'humanité. Et c'est l'essentialité de la poésie qu'il défend, non pas la violence. Il est décidé politiquement, il défend des principes, il défend, mais avant tout, c'est l'humain, le poème humain.
Alors on va évidemment reparler, parler de sa poésie. Un mot peut-être, Rodolphe Burger, sur ce spectacle dont vous parliez à l'instant et qui va être repris en partie à la Philharmonie. Ce spectacle qui avait été créé à Sète et qui mettait donc en miroir et en musique le Cantique des Cantiques et le poème S'envolent les colombes de Mahmoud Darwish. Alors c'était la traduction en français, il faut le rappeler aussi, c'est dans la traduction d'Elias Sambar. Le texte en arabe, lui, était pris en charge par Rayes Bek, qui est un musicien, un rappeur libanais, qui avait commencé par refuser votre proposition de se caler dans le souffle, dans les mots de Darwish. Et puisqu'on parlait de sa parole et de sa diction et de sa cadence particulière, qu'est-ce qui lui rendait la chose si difficile pour Rayes Bek, justement?
On n'imagine pas à quel point, enfin, pour quelqu'un comme de sa génération, Darwish est une sorte d'intouchable. Enfin, c'est comme une figure. Il est unanimement admiré dans tout le monde arabe. On sait qu'il remplissait des stades. Hein. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas un poète du XXe siècle qui réalisait ça. Mais au-delà de ça, c'est sa langue. C'est-à-dire pour Wael, qui a 40 ans, il n'imaginait pas il ne se pensait pas capable, simplement, de dire le texte de Darwish. Donc, je vais te trouver quelqu'un d'une autre génération, quelqu'un de plus ancien. Et j'ai un peu insisté. Il a fait une chose très jolie, il est allé à Beyrouth, il a enregistré son père, qui était justement de la génération de Darwish. Et il l'a enregistré, et il a appris par cœur, au souffle près, la chose.
Dans la voix de son père.
Oui. Et il est venu à Sète en me disant, oui, je le fais. Et Elias Sambar était là, donc c'était d'autant plus pour lui, la pression était énorme. Elias qui a été bien sûr l'entremetteur de toute cette histoire, parce que c'est par lui au fond que j'ai connu ce texte. C'est lui qui m'avait proposé de le mettre en musique, et à l'époque... il m'avait proposé, ce qui m'avait fait rêver, bien sûr, qu'on aille ensemble à Ramallah rencontrer Darwish. Et puis ça n'a pas eu lieu, et Darwish est mort. Mais Elias était là, la première, il a entendu Rayes Bek, et il a validé le jeune Rayes Bek.
Darbekri, qu'est-ce qui rend l'arabe alors littéraire, hein, donc là on est en train de parler des poèmes de Darwish, celui de Darwish, l'arabe de Darwish en particulier, si difficile à dire, alors que nous-mêmes, lorsque nous lisons Darwish traduit, hein, donc dans la traduction de Sambar par exemple, ou de Farouk Mardambeh, on a vraiment le sentiment d'une limpidité tranchante. Qu'est-ce qui rend cette langue si difficile et qui pourrait expliquer aussi un peu la résistance de Rayes Bek? Qu'est-ce que nous, on perd à le lire, en fait, nous, non-arabophones?
Le titre de Le monde comme métaphore, c'est aussi la métaphore du poème. Elle est dans le poème. Les images de Darwish coulent de source. Elles paraissent pas surréalistes, elles paraissent pas un travail, un exercice de style. C'est pas un exercice de langage. Et il y a du souffle mystique aussi. Donc il faut plusieurs dimensions pour lire le poème. Mais cela dit, ces images parlent à celui qui écoute. Ce sont des choses très très simples et fortes en même temps, et qui donnent une intensité dans l'antagonisme entre beauté et laideur, entre conflit et paix, entre tristesse et amour, et tout est dans la césure du vers, tout est dans la césure de la métaphore, l'appel à la beauté du monde et en même temps la réalité triste. Et donc toutes ces références parlent facilement au peuple arabe, au pluriel. Mais moi je dépasserai les peuples arabes. Mahmoud Darwish ne s'adresse pas que la littérature, la poésie arabe, s'adresse à l'humain en nous, à cette volonté. Il y a des poèmes sur les peaux rouges, les Indiens, l'exil, l'errance, toutes ces thématiques, elles sont partagées par nos frères humains.
Alors on écoute précisément ce que ça donne par Rodolphe Burger.
يطير الحمام يحط الحمام أعدي لي الأرض كي أستريح فإني أحبك حتى التعب صباحك فاكهة للأغاني وهذا المساء ذهب.
La voix de Reyes Bek, bien sûr, qu'on entendait. Alors, on entend le oud de Lady Adam, on entend un tout petit peu là, déjà la guitare qui entre. L'introduction suivra la clarinette, la basse, votre guitare, votre voix, bien sûr. Alors, au-delà de la cadence du poème, hein, S'envolent les colombes, dont on a parlé, qu'est-ce que cette diction, donc la diction de Darwish, qui est quand même aussi celle à partir de laquelle vous avez travaillé, qu'est-ce que sa diction a. C'est une diction sans ornement, précisément. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a imposé à la musique ?
Bon, il y a ce ton, je dirais, il y a la qualité et l'intensité de ce lyrisme, qui est un lyrisme de la plus haute force, quoi, parce qu'il est... Justement, je pense que le malentendu qu'il pourrait y avoir, ce serait de et quelquefois, il peut y avoir des images un peu obscures pour nous. Alors que, en effet, comme vous le dites, je pense que pour une oreille arabe, familière de la langue arabe, elles ne le sont pas du tout. Mmh. Elles n'ont rien de surréaliste. Et ça, c'est très certain, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est donc dans une élévation, je dirais, sans transcendance. Donc c'est quelque chose. Ce n'est pas du tout. Il n'y a aucune religiosité, je dirais, dans ce texte, qui pourtant répond au Cantique des Cantiques. Vraiment. Et il y a une manière de traiter la question de l'amour, puisqu'il s'agit que de ça, au fond, hein, qui est, voilà, donc le lyrisme, l'objet même de la poésie lyrique, qui est, voilà, qui impose, je dirais, d'être musicalement, voilà, dans cette de faire quelque chose comme une love song, au fond. Ce morceau, qui dure pourtant 30 minutes, 40 minutes quelquefois, est une love song. Une love song supérieure, enfin, quant au texte.
Qu'est-ce que ça veut dire, une love song en matière de musique?
C'est un poème adressé. C'est un poème complètement adressé et qui ne parle que d'amour, le cantique aussi. Et la lecture qu'en faisait Darwish, évidemment, n'était pas du tout une lecture religieuse. C'est pour lui, c'était un texte qui fondait la poésie amoureuse.
Donc ça voulait dire que de les mettre ensemble, Rodolphe Burger, c'était moins faire de Darwish ou du poème de Darwish un texte sacré que de rappeler le caractère quasiment profane de
Et c'est quelque chose qui nous a frappé quand on l'a joué, parce que je redoutais ça. La première fois qu'on l'a joué dans une cathédrale, on l'a joué plusieurs fois dans des lieux sacrés.
Ah, vous l'avez joué à Strasbourg aussi.
On l'a joué à la cathédrale de Strasbourg, mais on l'a joué récemment dans une église à Beyrouth, l'église des Maronniers. On l'a joué, la première fois c'était à la cathédrale de Reims. Et là, je me suis dit, mais bon, c'est peut-être un peu dangereux ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de transformer, de trahir quelque chose, là ? En effet, de sacraliser, outre le fait que ça a provoqué des réactions, avant même le spectacle, des gens qui ont dit, mais comment vous allez mettre un poème de Mahmoud Darwish avec un texte sacré hébreu ? Vraiment, bon, ça n'a pas été de soi. On a eu des réactions comme ça aussi au Maroc dans l'autre sens, on a eu la réaction dans le public d'un Palestinien qui venait pour un hommage à Darwish et qui, entendant un mot d'hébreu, a réagi de manière extrêmement violente. Donc il a fallu que justement Reyesbeck aille lui expliquer que d'une part Darwish connaissait par cœur en hébreu le cantique et que voilà, enfin lui expliquer un petit peu ce projet que nous avons, mais qui ne va pas de soi. Mais bon, au-delà de ça,
c'était rappeler que Darwish est aussi entré en littérature par l'hébreu.
Oui, absolument. S'il était à l'école israélienne, je ne sais pas. Donc jouer ça dans la cathédrale, qu'est-ce que ça allait donner ? Est-ce qu'on n'allait pas justement tout d'un coup trahir un peu quelque chose ? Et du cantique, finalement, en le ramenant du côté du religieux et du poème de Darwish. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Et ça a été une expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu ce sentiment d'être dans ce que je l'appelais tout à l'heure une élévation sans transcendance, quoi. Et du coup, on a pris goût à la chose, c'est-à-dire qu'on le fait régulièrement dans des lieux comme ça.
La poésie amoureuse de Darwish, c'est une gravité, par rapport au respect de l'humain. Le sacré ne l'est pas en soi, il est un respect de la vie humaine. Et c'est pour ça que les choses restent concrètes. Il y a beaucoup de tendresse dans cette gravité. Ce n'est jamais un cri agressif ou violent dans la poésie de Darwish. Il y a toute cette tendresse qui est une écoute du monde et voix du monde dans la pluralité du monde, dans sa diversité et dans tout ce qui est parfois oublié par les humains dans leur regard, dans les éléments de la nature. Et tout cela passe à travers le champ humain. Et je pensais à Sefers, mais j'ajouterai Ritsos tout à l'heure. Il a écrit des textes sur Kavaf et la poésie grecque d'Arwish. Et cet attachement à l'humain le rend si grave. Et quand on l'écoute d'une manière religieuse. Et c'est vrai que si c'est là, on le joue à la cathédrale, mais ça peut être dans une mosquée ou dans une autre église ou dans
un
autre.
Cordoue, ça ferait bien le faire à Cordoue.
Mais c'est jamais le religieux pour lui-même. C'est une sorte d'éternité de la vie humaine. Et cela m'avait frappé, si je peux me permettre de raconter mon voyage sur les hauteurs de Ramallah, où je suis allé sur la tombe de Mahmoud Darwish en mars 2009. Et sur la pierre tombale de Mahmoud Darwish, il est écrit en arabe un vers parmi les plus beaux de Darwish. Sur cette terre, la maîtresse de la terre, il y a quelque chose qui mérite la vie. C'est au moment où on parle de la mort, au moment où l'être meurt, c'est la célébration de la vie. Et toute la poésie de Darwish est une célébration de la vie, y compris dans la mort. Elle est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire, à côté de l'olivier, très près de la tombe, et il y a comme une paix éternelle qui est là. Et on ne peut que se taire dans le silence le plus total par rapport au respect et du poète et de la poésie, mais aussi et surtout de l'humanité.
vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Alors, époque Katonoma Rodolphe Burger, vous étiez déjà allé puiser, je ne vais pas tous les citer, hein, mais chez Shakespeare, chez Blake, chez Jack Spicer, dans la plus pure tradition, j'allais dire, du rock anglo-saxon, suivront d'autres voix, d'autres cadences. Je pense à Buchner, je pense à T.S. Eliot, à Goethe, à Michel Degi, à Cadio, Olivier Cadio, avec quand même un petit tropisme côté allemand, ça doit être votre côté alsacien, a priori donc loin de la géographie darwichienne, et puis loin surtout de vos poètes, parce que chez Darwish, ça chante. Disons que, enfin en tout cas c'est ce que lui disait, quoi que je fasse, ça chante. Dans sa façon de composer, et Dieu sait qu'il a été mis en musique. Est-ce que ça complique, oui, Rodolphe Burger, les choses pour vous, un texte qui chante déjà, vous qui êtes plutôt homme de syntaxe que homme de lyrisme?
Non, c'est très juste, ouais, ça complique, c'est vrai. Et j'ai, d'ailleurs, d'une manière générale, je dirais que rajouter de la musique à la poésie et à une poésie qui chante déjà, à quelque chose d'emblée de redondant et dangereux, enfin, il me semble que ça sent pas, en tout cas ça se passe de musique, ça c'est certain. La preuve, Darwish, lui, il pouvait lire dans les stades, il avait pas besoin d'un orchestre derrière lui pour et donc il faut faire attention. C'est pas, il s'agit d'élever la chose au carré plutôt que de la surligner ou la magnifier. Par exemple, j'ai quand même fait quelque chose dans ce texte, je me suis permis de prélever, quoi, de le construire comme, je disais, une love song, comme une chanson vraiment. Comme je fais aussi quand je me permets de détourner un des textes de mes amis, Cadio, Alfieri. Là, j'ai vraiment constitué ce Yatir Rahman, Yarotol Rahman, excusez-moi, je prononce mal, mais s'envole les colombes, devient un refrain, vraiment. Un refrain qui est musicalement, qui est franchement assumé comme un refrain. Ça, et
donc, c'est un poème qu'il a écrit à Valence, à Hattel Hamam. Et ouais. Ça aussi, on retrouve que la terre, les lieux appartiennent aux poètes, là où ils se trouvent. Il est toujours, il porte sa terre, il porte sa mémoire, mais il porte la rencontre. La rencontre avec les autres peuples, évidemment, Valencia qui a une mémoire de l'histoire arabe d'Espagne. Et ce mouvement, qui est aussi le mouvement de la poésie de Darwish, c'est toujours aller vers l'autre, aller aussi pour la sympathie vers l'autre, en disant que je ne suis pas agressif, mais je porte mon humanité vers vous.
Oui, l'envoi du texte, les premiers vers, enfin, apprête la terre, que je me repose, apprête la terre, donc mention que je me repose, car je t'aime jusqu'à la fatigue. C'est très beau, c'est d'emblée, c'est pas je t'aime, c'est je t'aime jusqu'à la fatigue. On a plus tard aussi des énoncés qui sont répétés, je t'aime car je te désire. Alors je sais pas quel est, en arabe, ce que ça vient traduire, ce que ça semble. Mais c'est magnifique ça, par exemple, cette répétition d'un je t'aime car je te désire. Donc de qualifier l'amour par l'endroit justement de l'éros, quoi.
Mais quand vous évoquez les colombes, on ne compte pas le nombre de fois où les colombes reviennent dans la poésie de Darwish. C'est la symbolique de Picasso, pratiquement la paix. C'est toujours l'appel à la rencontre des humains, à la fraternité humaine. Et il y a comme ça des référents, soit de la terre, soit des arbres, ou des fleurs, oui, ou des plantes. Et c'est pour ça que l'idée de l'amour, elle est au sens large. L'amour de l'être, mais l'amour du monde.
Du coup, parler, chanter, comment est-ce que cette question-là se pose pour vous? En tout cas, c'est posé pour vous, comme elle se pose souvent pour vous, mais en tout cas, se poser précisément pour vous, pour ce qui est du poème de Darwish. Comment placer sa voix?
Je fais entendre, enfin, grâce à Yazbek, enfin, c'est lui qui fait entendre la langue arabe. Ça, c'est très important.
Arabe.
De la même manière, sur le cantique, je tenais à faire entendre l'hébreu. Et ensuite, moi, je prends en charge la traduction d'Olivier Cadio. Donc, c'est, et ce que je prononce à ce moment-là, c'est plus la traduction que le texte, je dirais. Enfin, donc, tout en faisant entendre la langue d'origine. Bon, et donc, on est d'emblée dans quelque chose qui se découple, avec un effet de contrepoint aussi, quoi. Il y a quelque chose de parlé, qui fait entendre ceux qui chantent dans cette langue, parce que c'est une langue qui chante en elle-même, déjà. Et puis, après, moi, je dirais, je m'approprie ce texte aussi. C'est-à-dire, je le dis à ma façon. Je ne me sens pas en devoir d'épouser l'ascension de Darwish.
Je crois que Darwish insiste beaucoup sur le rythme dans sa poésie. C'est-à-dire, la question du rythme dans la poésie est très importante. C'est une musicalité interne à la poésie. Et
en plus, il cache des rimes, pardon, excusez-moi, il cache des rimes à l'intérieur des vers.
Oui, mais c'est le rythme saccadé. C'est-à-dire, il y a une manière écrite, mais aussi que se déclame du poème, qui est très importante. Et ce rythme-là parcourt pratiquement toute sa poésie. Je pense que Darwish, tout en écrivant, imagine déjà comment il va dire le poème. Et donc cette musicalité, elle est interne. Elle est dans la modernité poétique, mais sans lourdeur, sans gratuité. Et donc c'est ainsi pour lui, c'est des cycles poétiques qui sont longs parfois, mais parfois des rythmes brefs, les vers sont brefs, mais dans un cycle poétique.
Le poème, faudrait-il dire, de Darwish a évidemment maintes fois donné lieu à des mises en musique. Ça a donné même, par exemple, des chansons très populaires. Je pense par exemple à Rita, chantée par Marcel Khalife. Des musiques plus savantes. Je pense à Tibac, composé par Najir Hakim, qu'on pourra entendre dimanche après-midi à la Philharmonie. Je pense à Camilla Joubran, qu'on entendra demain soir aussi. Au jazz, qui convient si bien à sa cadence. Ou même à Darwish lui-même, qui va écrire le livret d'une sorte d'opéra avec Marcel Khalife. On en écoute un extrait.
من يدي بردا وتتركني ضفاف النيل مبتعدا وأبحث عن حدود أصابعي فأرى العواصم كلها زبدا.
Un extrait de Ahmad al-Arabi, pardon pour la prononciation, écrit par Darwish, composé et dirigé par Marcel Khalife en 1984. Ce qui nous ramène encore une fois à la question du public et à la question de la scène. Darwish, alors, vous l'avez rappelé, c'est vraiment à donner des récitals partout dans le monde, en particulier dans ses lieux d'exil, dans les lieux dans lesquels il a vécu pendant ses longs exils, au Liban bien sûr, au Caire, à Paris, à Tunis, où il s'est installé aussi longuement au moment où l'OLP a déménagé son siège de Beyrouth à Tunis. C'est une voix qui fait venir les foules, ce qui est assez étonnant quand on voit justement cette façon qu'il a aussi parfois. Il ne déclame jamais Darwish. Donc, et puis en plus, il a cette façon de se tenir très particulière, très droite dans son costume très droit aussi, presque une forme de timidité. Qu'est-ce que c'est que d'assister à un récital de Darwish ?
Je porte sa voix, sa poésie depuis que j'étais au lycée en 67. J'avais 16 ans. Et c'était les territoires occupés de Palestine. Et donc c'est à partir de là qu'on commençait à parler déjà de la défaite qui va marquer ma génération. Et nous avons suivi pratiquement à partir de là toute sa génération avec Samir Qassem, Tawfiq Ziyad et les poètes palestiniens de la résistance pour la terre palestinienne. Mahmoud Darwish, il est une voix de la poésie, mais il est aussi la voix d'un peuple. Il est la voix d'une terre. Et donc c'est vrai que quand il y a un récital de Darwish, on ne peut rester tranquille. Il y a toute l'émotion qui passe par rapport à la question palestinienne qu'il a toujours portée avec amour, j'insiste là-dessus, et avec paix. C'est-à-dire, même si Darwish a eu des appartenances politiques, il a eu des fonctions politiques, il a vite cessé de l'être parce que sa propre voix était celle-là, l'émotion de traduire un peuple, d'en parler et de le porter par la beauté des choses et la beauté de la parole. Un récital de Darwish, c'est toujours porté par toute la question palestinienne, porté aussi par l'actualité politique et parfois et surtout par la défaite des peuples arabes face à cette question. Et l'actualité donne toujours raison à Mahmoud Darwish, malheureusement.
Alors on va revenir aussi sur cette question du poids que ça a pu être aussi sur les épaules de Mahmoud Darwish que d'être ce porte-drapeau ou ce porte-parole. Il est mort à Houston à 67 ans des suites d'une opération du cœur. Son cœur était fragile depuis longtemps, ce qui avait d'ailleurs donné lieu aussi au long poème, au très beau poème mural en 2003, après son accident cardiaque. 4 jours après, le 13 août donc, il est enterré à Ramallah.
3 salves d'honneur pour Mahmoud Darwish. Le cercueil, recouvert du drapeau palestinien, arrive enfin depuis la Moukata, le siège de la présidence, où se déroulait la cérémonie officielle. Mahmoud Darwish est rapidement mis en terre, pas d'hommes en armes, pas de mouvement de foule comme pour Yasser Arafat. Henriette aurait aimé plus de ferveur.
Je ne vois pas une réaction vive comme c'était le cas de Yasser Arafat. Et moi, je le trouve aussi important que Yasser Arafat, si ce n'est pas plus aussi. Parce qu'il est un symbole pour tous, pas seulement il est palestinien, mais il est un personnage du monde arabe aussi.
Dans la foule, calme et attristé, Uri Avneri, un Israélien, figure du mouvement pacifiste en Israël, est présent.
Mahmoud Darwish was the conscience.
Mahmoud Darwish était la conscience des Palestiniens. Si Yasser Arafat était leur leader politique, Mahmoud Darwish en était le leader spirituel. Et pour nous, Israéliens, il est extrêmement important de comprendre l'état d'esprit des Palestiniens. Mahmoud Darwish a dit un jour, c'est un conflit entre deux mémoires, la mémoire juive et la mémoire palestinienne. Et si l'on veut comprendre la mémoire palestinienne, il faut lire Mahmoud Darwish. La disparition de l'un des pères fondateurs de l'identité palestinienne n'a pas apaisé les divisions. À Gaza, la télévision du Hamas n'a pas diffusé les obsèques. Le mouvement islamiste n'a rendu au poète qu'un hommage discret par communiqué. À Ramallah, Karim Lebourg, RFI pour France Inter.
Nous sommes donc en 2008. Darwish, la conscience de la Palestine. Darwish, le poète de la résistance palestinienne. Darwish, le poète enterré en poète officiel, d'une certaine manière, ou en poète national, hein, alors que, par ailleurs, je crois qu'il aurait voulu reposer chez lui, hein, en Galilée, si ça avait été possible. Ce titre, j'allais dire, de poète de la résistance, c'est un titre avec lequel il a eu beaucoup de mal, hein, en particulier sur la fin, même un titre qu'il n'aimait pas trop. Alors, il faut dire aussi que sa poésie a beaucoup bougé, hein, entre les premières années, dans les années 60, et puis les dernières
bien sûr,
années.
La maturité de Darwish, il y a une grande évolution dans ce qu'il écrit depuis qu'il était jeune jusqu'à... évidemment, le poème de la résistance, à ses débuts, était un peu le cri de la jeunesse. Il était le poème engagé dans son classicisme, mais peu à peu, il évolue vers une ouverture de poème à l'essentialité des paysages, de la terre, et aussi la rencontre avec les autres poètes. Il a tellement voyagé, il a tellement dit, et donc il y a aussi des rencontres. Il parle, il dialogue avec d'autres poètes à travers le monde, les poètes grecs, mais aussi les poètes de l'Amérique latine, ou tous ceux qui sont frères de la question palestinienne. Mais Darwish, c'est aussi l'intellectuel. Il s'est occupé de la revue Al-Karmal, c'est Shoun Falassini. Il a beaucoup écrit sur le plan théorique. Et il a aussi subi le siège en 2002 à Ramallah. On a détruit la maison de la poésie. Et il a lancé des manifestes aux poètes du monde en 2002. Et c'est tout cela, Darwish. Il n'est pas seulement le poème isolé, et il y a aussi le regard théorique, il y a aussi la conceptualisation de la question palestinienne, le devenir de la, du palestinien, du peuple palestinien.
Je vous posais la question parce que plus ça allait, plus Darwish semblait plaider pour ce qu'il appelait lui-même une lecture innocente de sa poésie, alors ce qui paraît évidemment un petit peu difficile, mais néanmoins on comprend ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de lecture innocente. Oui, je vous vois, oui, je vous vois lever le sourcil.
Parfois le public arabe est si exigeant qu'il reste parfois dogmatique ou idéologique, et Darwish a lutté contre la fermeture idéologique ou la propagande dans la poésie. Il a insuffler le poème avec d'autres images, d'autres choses belles. Par exemple, dans son poème, le cyprès s'est brisé. Il y a toute une symbolique du cyprès qui se brise et tout sur la vieillesse du monde, comment l'interpréter. Et donc, il fait appel à l'imagination poétique qui est nécessaire au poème. Et ça, parfois, le public ne cherche pas forcément à aller au-delà de cris politiques. Et je pense qu'il s'est dégagé très vite de cela, et pour notre bonheur.
Oui, je pense qu'il s'en explique dans les entretiens sur la poésie, oui. Sa fierté, si on peut parler comme ça, était justement peut-être de pouvoir emporter, grâce à la confiance qu'il avait gagnée, comme il dit, auprès de son public, de son lecteur. Une fois gagné la confiance du lecteur, je peux l'emmener ailleurs, je peux l'entraîner vers une expérience libre. Parce que son affaire, c'est une liberté très paradoxale. Parce que c'est la liberté de celui qui est de l'exilé. C'est cette expérience-là qui, qu'au fond, qu'il approfondit en permanence et vers laquelle il essaye d'entraîner ce public. Donc, il a joué d'une position de poète officiel, d'une certaine manière, le porte-parole.
Je dirais même pas officiel, c'est oui, l'âme du peuple.
Le porte-parole, la parole même du peuple palestinien, mais il s'en est affranchi et il a tenté en permanence d'opérer une sorte de mouvement de
oui, c'est ça le problème de Darwish, comme la poésie de la résistance, c'est comment parler du réel ou de la réalité et échapper à cette même réalité pour laisser la place à l'imaginaire. C'est ce titre sur la métaphore. C'est-à-dire ne pas se suffire de la description réaliste de la Palestine ou de ce qui l'entoure, ou son histoire, mais aussi comment dépasser, ouvrir l'imagination de la poésie arabe et la poésie palestinienne et sa propre poésie, bien sûr. Et là, c'est vrai que je peux évoquer le poète tunisien Abulkasm Chebbi qui est mort en 34. Et qui a laissé un grand essai, Al-Khayal al-Sha'ri and al-Arab, l'imagination poétique chez les Arabes. Depuis les années 30, ce grand poète tunisien a appelé à l'imagination, c'est-à-dire tout en parlant de le colonialisme, de l'oppression, de la tyrannie, comment aussi aller vers l'imagination, ouvrir l'imagination de poème, et ouvrir l'espace, ouvrir le temps, ouvrir la métaphore, tout simplement.
Dans les derniers recueils parus, donc en 2006, 2007, 2008, il n'a jamais cessé d'écrire. Alors c'est vrai que les derniers poèmes plaident davantage pour une possibilité de lecture innocente. Il a par exemple répertorié la faune et la flore de la Galilée de façon infinie, de Galilée où il était né, pour les faire exister dans ses poèmes. Il raconte aussi qu'il a cherché pendant 10 ans le bon mot pour dire la fleur d'amandier, donc voilà, qui était vraiment ça plutôt les poèmes des dernières années. Comment comprendre ce nœud, ce difficile équilibre, ce risque même entre la poésie et le politique? Donc je pense au tout début, qui était assez clair, assez soumis aux politiques. Je pense à la fin, cette façon qu'il avait de se pencher sur un brin d'herbe ou une fleur d'amandier. Est-ce que c'est pour dire au fond que c'est poète qu'il veut être avant tout, ou est-ce que c'est aussi dire une forme de défaite de ce que la poésie pouvait, de la manière dont la poésie pouvait être armée ou pas.
Moi, je crois que c'est-à-dire le poème n'est pas quelque chose de vide, n'est pas l'abstraction du monde. Il y a des choses très concrètes, très simples. Il y a des poèmes de Darwish, comment il aime le café de sa mère, l'odeur du café de sa mère.
Du pain grillé.
Et notre attention à la beauté des choses, c'est vraiment, parfois se limite à ça. Et quand on est privé de ça, la nostalgie, elle essaye de récupérer ce qui se perd dans cet exil. L'exil, c'est aussi une odeur, c'est une plante, c'est une couleur, c'est un arbre, c'est une plante, c'est une fleur. C'est des choses très très simples. Et quand elles manquent, c'est ça ce qui fait écrire Darwish. Les derniers textes sont aussi de récupérer ce qui a manqué à sa vie, ce qui a manqué à son peuple, ce qui a manqué de beauté. Tout simple, on ne demande pas à un peuple de perdre des choses aussi simples qu'un brin de thym, qu'un olivier, qu'un citronnier, qu'une fenêtre, qu'une porte ouverte, qu'une couleur de, qu'un seuil de porte, qu'un animal dans une bergerie. C'est presque le monde de la ruralité, mais c'est aussi cette beauté qui est aussi la chose concrète, comment chanter le monde.
Être poète allait me rembourser ma part de bonheur, hein, c'est ce que disait Darwish. Sur cette question de la poésie palestinienne, hein, qui était une question qui lui était lourde et parfois même pénible sur la fin de sa vie, hein, je pense en particulier à ses rapports avec les journalistes et avec l'idée de lier la poésie palestinienne à l'occupation, lui qui préférait se définir comme un Palestinien qui écrit, plutôt que comme un poète palestinien. Voilà comment lui se définissait en 97, hein, c'est dans un documentaire qui s'appelait « La terre comme la langue ». On l'écoute.
ما أردت أن أقوله ولكن ليس بشكل إبلاغي نهائي إنما هو المعنى وغموض المعنى هو إنني أنتمي إلى طروادة لا ليس لأنني مهزوم ولكن لأنني مهووس بكتابة النص الغائب.
J'estime être un poète troyen, c'est-à-dire un poète dont nous n'avons pas retrouvé l'œuvre, dont l'histoire n'a pas retrouvé l'œuvre. J'entends par là, sans en faire un credo absolu, mais avec une certaine ambiguïté, que j'appartiens à Troie, non pas que je sois vaincu, mais parce que je suis obsédé par l'écriture du texte disparu. Plus encore, j'aurais souhaité être vainqueur, c'est-à-dire ne pas appartenir à une société défaite, pour tester la sincérité de mon désir d'incarner la victime troyenne, capable d'écrire, elle aussi, son récit. C'est un extrait donc du documentaire Mahmoud Darwish et la terre comme la langue, signé Elias Sambar et Simone Bitton en 1997. Être un poète troyen, quel poète est-ce que ça raconte, Tahar Bekri?
Je dirais que c'est la problématique du sens dont il parle dans cet extrait. Les peuples vaincus et les peuples victorieux, et de où se place le poète par rapport à la victoire, par rapport à la défaite. Je ne sais pas s'il y a une défaite absolue ou s'il y a une victoire absolue. Le partage de cette réalité dans l'œuvre de Darwish le rend plus proche, le rend humain. Il ne cherche pas une victoire, il cherche à ne pas être vaincu et ne pas totalement être des oubliés de l'histoire. La mémoire, elle est là, elle est un rappel vibrant, elle est aussi notre visage humain. Et c'est toute la poésie de Darwish, elle est là, elle essaye de se rappeler à notre souvenir, à notre réalité du monde. Et que si un homme est vaincu, il n'est pas seulement palestinien, toute l'humanité qui est vaincue.
Oui, c'est quelque chose qui est dit notamment dans, aussi dans cet extrait dans le film de Godard, notre musique, dans cet entretien avec le journaliste palestinien, où il le dit de manière moins dialectisée que là, dans ce très beau passage là que vous venez de traduire.
C'est la traduction d'Elias Sambar.
La traduction d'Elias. Il pose la question, qui va gagner la bataille de la poésie ? Avec un certain orgueil aussi, c'est-à-dire la question c'est bon, c'est pas, c'est la poésie du côté forcément quand même du vaincu. Elle est du côté de l'expérience du vaincu. Mais alors ce qui est très beau dans ce qu'il dit là, c'est qu'il aurait aimé être du côté des vainqueurs simplement pour faire entendre la voix du vaincu. C'est très beau ça.
On pourrait être sûr que c'était ça la voix qu'il voulait.
Et pour vérifier
la sincérité.
Sincérité, c'est très très beau, très beau ça, cette chose là.
La poésie de Darwish, elle est ontologique, elle vient de l'être, elle n'est pas un discours. Et c'est le vécu qui la rend forte, qui la rend chargée d'émotions, d'intensité. Et à tous les moments de sa vie, Mahmoud Darwish a écrit, a comme une réponse au vécu. Et cette place du vécu rend la place de l'ontologique essentielle dans sa poésie.
Si je puis me permettre, oui, c'est une ontologie, mais qui serait pas justement peut-être la c'est une ontologie heideggerienne, si je puis dire.
Ontologique.
Qui reprend Hölderlin, l'homme habite en poète sur cette terre. Donc oui, Darwish dit ça aussi, l'homme habite en poète, mais en même temps, il définit l'habitation par l'exil. C'est comme si l'expérience de l'exil devenait l'expérience fondamentale du dont il définit le Dasein, un Dasein exilé intrinsèquement. Donc il n'y a pas une ontologie du chez soi, de l'appartenance, même s'il chante la terre, même s'il chante il tente toujours de se déprendre il se méfie toujours de ce qui pourrait aussi aller du côté d'une ontologie, oui, de l'appropriation.
Dans ce même documentaire, d'ailleurs, hein, il dit à un moment donné, donc toujours dans les entretiens sont vraiment extraordinaires. Hein, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce documentaire, où il explique mes poèmes ne distribuent pas qu'images et métaphores, mais des paysages, des villes, des champs, en un mot, un lieu. Il donne ainsi à celui qui est absent de la géographie, mais obsédé par elle, le pouvoir d'élire demeure dans le poème. Comme s'il résidait sur sa terre, donc c'est précisément ce que vous disiez, Rodolphe Burger. Le poète ne peut exiger bonheur plus grand que de voir les gens user de ses vers comme de véritables demeures. À ce propos, la langue arabe recèle une belle et rare homonymie entre le vers poétique et la maison. L'un et l'autre se disent, je vais mal le prononcer, comment est-ce qu'on dit maison ? Bait ?
Bait ou dar ?
Bait. En disant, donc, où il explique que c'est le même mot pour dire le vers poétique et pour dire la maison, comme si l'être humain pouvait habiter cette maison-là. C'est ça. Au fond, c'est ce que vous disiez, Rodolphe Burger.
Il le dit mieux.
J'aurais bien aimé aussi vous entendre lire un extrait du poème que vous avez écrit en mémoire.
Je voudrais lire un extrait de Salam Gaza, mais souvenir de Palestine sur la tombe de Darwish et lire le tombeau de Mahmoud Darwish. Je formule le vœu d'aller sur la tombe de Mahmoud Darwish. Elle est là, sur les hauteurs de la ville. Mahmoud dort parmi les sapins et les conifères. Un petit mausolée pyramidal en verre est élevé à sa mémoire, entouré de quelques fleurs et couronnes. Juste à côté, un grand rocher se dresse et fait figure de monument inauguré par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. L'herbe est verte, le jeune olivier planté récemment résiste au vent. Le soleil est tendre, le poète repose ici, ses mots emplissent le lieu, sa voix audible à travers les pierres, son souvenir immense. J'essaye de m'imprégner du paysage qui surplombe la ville. De très loin se trouve le palais de la culture. Des immeubles sont alignés en face. Le silence règne sur la colline. Tarq, Lucienne et Jean-Philippe prennent des photos. Les vers de Mahmoud Darwish défient l'occupation, bercent la terre de son amour. Je jette un dernier regard. Dors en paix, Mahmoud, parmi les arbres que tu aimais tant. Tu es chez toi. Tu aurais aimé être enterré en Galilée, peut-être. Voici tombeau de Mahmoud Darwish. Tu disais à la pierre inconsolée, sur cette terre, maîtresse de la terre, il y a ce qui mérite la vie. Le sapin sourd à la prière, le thym reclus aux frontières de l'oubli. Combien de murs, combien de fils barbelés faut-il détruire pour confier à la colline? Ceux qui confisquent les oliviers séquestrent la lumière, sombre dans la cécité du cimetière.
Merci beaucoup, et je renvoie également à votre poème « Épopée du thym de Palestine hein, » paru dans l'excellent numéro de la revue Europe en 2017, hein, qui était un numéro entièrement consacré à Mahmoud Darwish. Tar Bekri, Rodolphe Burger, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission que je vous laisse terminer entre vous. Non sans Rita, le poème de Darwish et le timbre tout doux de Marcel Ralifé. Marcel Ralifé qu'on retrouve ce week-end à la Philharmonie dans un spectacle mis en scène par son fils. Bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
في العيون العسلية بين ردة وعيوني بندقية والذي يعرف ردة ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية.
Enfin, heureux de vous.
Moi aussi, très heureux de faire votre connaissance.
Faire votre connaissance et partager ce moment toujours bouleversant pour moi autour de Darwish.
Oui.
Il se dit en musique, mais c'est la musique du cœur qui compte. En poésie comme.
Et vous avez eu cette chance de le rencontrer. Moi, j'avoue que c'est un grand regret, ça. Que je n'ai pas pu faire cette chose qu'Elias proposait d'aller se rendre à Ramallah. Le voir.
Je ne peux pas imaginer autre chose que Mahmoud, un frère de l'humanité, tout simplement. Il appartient à tous, il appartient à son peuple, il m'appartient, il vous appartient, il appartient à la beauté du monde que nous essayons de défendre.
Des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Manon Houssin pour la technique, à Thierry Beauchamp pour la préparation et à François Connac pour la réalisation. Le week-end en hommage à Mahmoud Darwish se tient dès ce soir à la Philharmonie de Paris. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.